des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Bonjour, à nous la carte blanche.
Ben à toi, en fait, tu veux me parler ce matin de biodiversité, de réchauffement climatique et je t'écoute.
Parce que c'est un peu, sinon, vachement dans l'air du temps.
Ah, avec la COP15 à Montréal, exactement.
Avec la COP15 à Montréal, les annonces encourageantes faites hier par notre premier ministre Legault, 650 millions de dollars pour favoriser la biodiversité, protéger à l'horizon 2030 30% de notre territoire. C'est un objectif qui ressemble à un slogan politique un peu partout dans le monde aujourd'hui, 30-30. 30% des territoires pour 2030, ce que ça sera fait. On est à 17. C'est comme doubler la surface protégée. C'est un bel objectif, c'est un objectif ambitieux. Espérons qu'en 2030, on pourra dire mission accomplie. Donc l'heure, effectivement, est beaucoup à la biodiversité, aux grandes déclarations de principes et davantage, on espère, pour nous aider à sauver la planète. On est généralement dans tout ça, nous, représentés dans l'équation comme le prédateur ultime, hein, une espèce à part, l'homme avec un H majuscule, capable par ce qu'on pourrait appeler notre obsession de la croissance, de nous auto-détruire. Ce nouveau discours, d'ailleurs, fait beaucoup place, on en a déjà parlé à l'émission, à la décroissance, avec une forte dose de mauvaise conscience, qui est souvent le meilleur moyen de lubrifier les choix les plus difficiles. C'est avec la mauvaise conscience, on se dit « OK, je me pince le nez, ça va faire mal, mais c'est ce qu'il faut ». Par exemple, avoir ou non des enfants. Je sais que tu as une fille, je pense.
Oui, oui. Vincent. J'en ai un enfant.
Es-tu un citoyen vraiment responsable? Puis je dis sourire en coin parce que la semaine dernière, je pense, ou était-ce la semaine d'avant, quand on a franchi le cap du 8 milliardième individu sur Terre, le New York Times, que j'adore lire pour des fois rire un peu, cette cathédrale de la bien-pensance, donnait une tribune. Puis je le comprends, parce que c'est une idée certainement intéressante, mais dans les circonstances, ça voulait aussi dire quelque chose. Donner une tribune à Les Knight, qui lui est militant pour l'extinction volontaire de l'espèce humaine. Et c'est très sérieux. Un mouvement qui recommande de ne plus faire d'enfants sur une base volontaire pour arriver un jour à redonner aux grenouilles, aux quenouilles et aux andouilles le plein usage de Gaïa, notre terre matricielle. Et c'est pas une blague, sauf peut-être pour les andouilles qui est ma touche personnelle ici. La surpopulation, c'est pas nouveau, c'est montré du doigt comme source de tous les dangers depuis Malthus, qui disait, je pense, à la fin du 18e siècle, si ma mémoire est bonne, que la croissance exponentielle de l'espèce humaine allait nous mener à notre propre destruction. À ce moment-là, l'humanité comptait 800 millions d'individus. L'enjeu, évidemment, à cette époque-là, c'était davantage la famine que l'environnement dont on parlait pas vraiment, mais le raisonnement est un peu le même. On était l'espèce qui menaçait d'épuiser les ressources, les nôtres. Au passage, on se menaçait nous-mêmes de disparaître. Et le discours de la croissance est un peu aujourd'hui le même. On s'est parlé aussi en début de saison de l'Europe et de la crise énergétique, qui est une crise évidemment fabriquée. C'est-à-dire que les Européens, pour des raisons de principe qu'on peut comprendre, ont choisi de boycotter l'énergie russe et de se mettre dans une situation difficile, qui devient un prétexte peut-être pour rationner, pour décroître en termes d'énergie, de consommation d'énergie. Dans ce genre d'équation, ce que je constate, c'est que le rationnement n'interpelle pas exactement de la même manière les pauvres et les riches. Il y a chez nous, depuis quelques jours, le ministre Fitzgibbon qui s'est aussi mis à l'heure des économies d'énergie. On parle de la petite laine à porter en hiver pour chauffer un peu moins dans nos maisons, des vaisselles qu'on ferait à minuit ou du lave-vaisselle qu'on partirait à minuit. C'est la nouvelle tendance mode pour la saison automne-hiver du discours politiquement branché. On parle énormément des sacrifices que nous pouvons, que nous devrions tous faire, mais assez peu. Puis là, je pense au contexte québécois en particulier. On pense assez peu et on parle assez peu, par exemple, des généreux contrats d'approvisionnement consentis à des usines énergivores, mais qui produisent pas au Québec de manière optimale. En fait, on est parmi les producteurs les moins efficaces au monde en termes de valeur ajoutée par unité d'énergie utilisée, brûlée. Il y a des questions à se poser, certainement. Hier, par hasard, j'imagine que tu en as parlé à l'émission, en une de la presse puis du journal, c'est rare que ces deux journaux sont à la même page, on retrouve le même article, qui je pense venait de France Presse, de l'agence France Presse, sur les bénéfices de la douche espacée, n'est-ce pas? Ce sont maintenant les dermatologues qui vantent les mérites d'une hygiène plus souple au nom de l'épiderme et de la croûte externe de la planète qui est menacée par l'homme parasite. On serait un peu comme l'eczéma de la planète, nous les hommes, encore une fois, H majuscule. Et ça m'amène à te parler, c'est pas une recommandation pour autant de lecture, parce que j'aimerais que d'ici la fin de la saison, on parle de choses douces et bonnes à lire. Dans ce cas-ci, ça peut être bon à lire, mais c'est pas nécessairement doux ou facile. Un des gros succès librairie au Japon, c'est un livre improbable qui a été publié en 2020 par un universitaire que tu connais peut-être, Koei Saito. Ma traduction là, littérale du titre, c'est « Le capital à l'ère de l'anthropocène ». Autant dire que c'est pas quelque chose que tu lis avant d'aller au lit. C'est un réquisitoire implacable contre le vilain capitalisme destructeur qui nous entraîne évidemment à notre perte. C'est une lecture marxiste des choses extrêmement bien articulée de ce professeur qui arrive à la conclusion que les contradictions du capitalisme avancé sont incapables de le protéger de lui-même. C'est un système qui est donc programmé pour être suicidaire. Il propose une forme de communisme décroissant qui serait comme l'alternative scientifique au cul-de-sac de l'environnement, au cul-de-sac environnemental. Il est donc temps d'agir globalement, s'il le faut, même imposer aux États qui seraient réfractaires des mesures coercitives qui permettraient ou permettront de régler le problème. C'est une idée, puis c'est ce qu'on discute souvent dans ces grandes conférences. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Puis est-ce qu'il faudrait même que collectivement on soit capable de punir ceux qui refusent de jouer? Puis dans le discours, Saito, mon ami japonais, n'est pas le seul. On entend beaucoup de gens dire qu'il y a un précédent récent, utile, pour trouver des solutions globales à un enjeu qui est aussi global, c'est la guerre à la COVID qu'on a récemment livrée. Alors, en filigrane, l'idée réjouissante est profondément démocratique. Et là, tu peux dire, Stéphane, est ironique. Donc, quand je parle d'idée réjouissante et profondément démocratique, c'est que je ne le pense pas tout à fait. C'est qu'on pourrait gouverner par décret au nom d'un danger imminent qui nous menacerait. La logique est toute simple. La démocratie, nos démocraties ne sont pas à la hauteur des défis de notre époque. Il est donc impératif de reprendre le dessus en imposant un corset à nos abus. C'est une forme de dictature de la vertu. Ce qu'on se résigne à dire, c'est qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais ça pose une question. Est-ce qu'on veut manger de cette omelette? Est-ce qu'on est vraiment prêt à brider la croissance économique pour nous sauver de la catastrophe? Il faudra aller poser la question en Afrique, en Chine, puis même ici au Canada où tout le monde n'a pas nécessairement les moyens de rêver ou de réfléchir à Liberté 55. Et ça me fait beaucoup penser à cette idée progressiste qui consiste à recommander de plus trop voyager pour lutter contre ce qu'on a appelé le surtourisme et aussi le réchauffement. Venise, Barcelone, Paris, ça a été défiguré par les vulgaires, la vulgate, les touristes qui ne connaissent pas les choses et qui, en trop grand nombre, se bousculent aux portes. Alors, on pourrait fermer les robinets pour sauver la Terre, laisser la place à ceux qui en ont les moyens et qui savent bien faire les choses avec élégance et qui pourront, eux, nous raconter les délices du monde pendant que nous, on restera planqués à la maison.
Mais dans le discours de ceux qui disent de voyager, ils disent pas faut juste que les riches voyagent. Là. Ils disent...
C'est parce qu'on arrive éventuellement à la conclusion. Parce que dans tous ces discours, puis tu fais bien de poser la question, ce que je constate, puis on y arrivera dans quelques instants, sur par exemple les questions de tarification dynamique, est-ce que c'est qu'on se retrouve dans un cas de figure où on crée des conditions où les coûts en particulier sont tellement élevés qu'à terme, c'est ouvert à tous, à condition d'en avoir évidemment les moyens. Puis moi, je trouve que c'est un des... Enfin, je trouve... C'est une opinion que je valide depuis quelques mois, quelques années. Il y a une espèce de paradoxe de l'époque. Les écologico-sensibles sont alliés ou deviennent les alliés des décroissants. Et avec aussi ceux qu'on appelle... Puis je fais bien attention quand j'emploie l'expression, tu sais, les élites, parce que quand on parle d'élite, tout de suite, on est montré du doigt. Est-ce qu'on est complotiste? Non, je pense qu'il y a des gens qui, effectivement, ont des moyens, les moyens de réfléchir, les moyens de dépasser, et les moyens aussi souvent de nous gouverner et qui peuvent faire partie. Je pense qu'on n'est pas coupable de participer à ces élites, mais qui en font partie. Donc, une espèce d'alliance qui me semble un peu... surprenante entre, c'est ça, ces écologico-sensibles et ces élites qui sont pas toujours du côté de la vertu. C'est les mêmes qui nous vendaient, en fait, la mondialisation au nom de la logique économique, de la lutte à la pauvreté, qui disent, ah, ça, c'est peut-être un cul-de-sac, finalement, mais qui nous expliquent aujourd'hui que la mondialisation, ça serait la solution aux enjeux climatiques. Il faudrait temporairement accepter de renoncer à nos prérogatives nationales pour permettre de lutter plus efficacement contre le danger commun.
Ça mais ça, c'est assez dans la marge comme langage. Position. Là. Je sais pas.
Comment?
C'est assez dans la marge. Là. C'est très marginal comme opinion là, dans les groupes écolos.
Je pense que c'est... je suis pas sûr que ça soit tant à la marge que ça. C'est quand on parle d'une espèce d'international de la lutte au changement climatique qui serait capable de surmonter les égoïsmes nationaux, c'est un peu la logique aussi des grandes ententes et éventuellement de les rendre plus coercitives. En fait, tout ce que je dis personnellement là-dessus, c'est que je me méfie des discours qui recommandent l'appel aux mesures d'urgence au nom de la catastrophe imminente. Il y a toujours là une espèce de tentation totalitaire ou totalisante. C'est la même logique qui fait... C'est pas la première fois que j'en parle, mais ça m'a durablement marqué qu'à un moment donné, en conférence de presse, un journaliste peut demander au premier ministre Legault s'il était encore normal en période de COVID que les policiers aient besoin de mandats pour rentrer dans des résidences privées pour contrôler les rassemblements qui pourraient être illégaux. À partir du moment où tu penses qu'il y a un danger tel que la règle de droit peut être suspendue temporairement et donner à des policiers le droit de rentrer chez vous sans mandat, je suis... inquiet. Et je dis simplement, faisons attention parce qu'on est un peu dans une, non pas une dérive, mais une tentation. Il y a un discours du rationnement en ce moment et moi, quand on parle de rationnement, je dis, c'est toujours les mêmes qui sont les premières victimes. C'est les plus pauvres d'entre nous quand on parle de rationnement, par exemple. Je reviens au mouvement des gilets jaunes dont on a aussi parlé. C'est d'abord une réaction à l'augmentation des taxes sur le fuel qui les atteignait les plus directement, mais c'était évidemment fait au nom de la vertu. Il faut réduire notre consommation d'essence. La fameuse tarification dynamique dont on a déjà parlé, je me rappelle, tu m'en avais d'ailleurs, tu m'avais dit, ben oui, effectivement, c'est une pas pire idée. T'sais, si tu consommes plus dans un monde où l'énergie est rare, tu payes davantage, puis c'est vrai, mais quant à moi, c'est une blagounette, parce que le coût marginal que les gens les plus riches d'entre nous paieront, même avec une tarification dynamique, n'aura jamais d'impact sur leur consommation. Si on va aller au bout de la logique du rationnement, ben tu te dis, OK, si tu habites Westmount, puis tu as 22 salles de bain, 48 chambres à coucher, ben à ce moment-là, il faudra contrôler la température dans la maison, comme avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas une question de tarification dynamique, ça va être 18 degrés à l'intérieur pour tout le monde, que tu en aies les moyens ou non. Et c'est ça d'aller au bout de la logique du rationnement. On n'est jamais là. Alors, quand on me parle effectivement de tarification dynamique ou de cette idée que certains pourront faire à moindre coût leur lavage, faire aller le lave-linge ou le lave-vaisselle à minuit et que les plus riches pourront peut-être faire ça à 5 heures ou à 6 heures, ben c'est que tu imposes aussi le fardeau à ceux qui travaillent le plus de faire le reste de leur vie ordinaire à des heures déraisonnables. Alors, dès qu'on rentre dans ces logiques, je dis attention, il y a un coût et c'est pas nécessairement les plus riches d'entre nous qui vont le payer. Je me méfie tout simplement de ça.
Mais ça, c'est souvent comme ça. Les plus riches s'en sortent toujours.
Ben écoute, c'est un peu, comment dirais-je, ennuyeux de le dire, mais c'est pas totalement faux. Et les logiques de rationnement, ben faut juste se méfier parce qu'elles peuvent avoir des allures de vertu. Mm. Mais faut se poser la question, qui en paie le prix?
Ouais.
Je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. T'sais, avant que tout le monde se mette à faire son lavage à minuit, peut-on faire en sorte que les entreprises au Québec qui bénéficient de tarifs préférentiels, et je le comprends, ça fait partie des arguments qu'on peut invoquer quand on veut attirer des gens ou des entreprises à venir s'installer au Québec puis à créer de l'emploi. Bien. Mais est-ce que leur usage de cette énergie est optimal? Puis la réponse courte, c'est non. Alors j'attends qu'on me parle de ça aussi.
Bon, invite Pierre Fitzgibbon au Monde à l'envers. Je pense que vous auriez une bonne discussion, Stéphane. Bonne journée.
Ben, c'est une très bonne idée.
Je lance ça. Moi, je suis là pour avoir des idées. Moi.
C'est ça ben, que je sens. Quand on veut faire du casting, je pense qu'on va maintenant t'appeler. Mais sincèrement, oui, j'aimerais ça. Je pense que c'est une bonne conversation à avoir. Et au cours des prochaines semaines, des prochains mois, c'est passionnant, les conversations que nous aurons à avoir sur le bon usage de l'énergie, ce qu'on fait avec, effectivement, ce qu'on rationne, est-ce qu'on contrôle, c'est directement lié à nos modes de vie, à notre façon de faire les choses, et je crois que c'est une bonne idée qu'on commence à en discuter, puis j'espère que ça sera la manière de procéder, discuter, non pas d'imposer.
Stéphane, bonne journée.